Bonjour à tous et bienvenue dans Au-delà du sport, votre rendez-vous mensuel pour explorer tout ce que le sport nous fait vivre. Une fois par mois, on prendra le temps d'aller plus loin que les scores et les médailles pour voir ce que le sport raconte de nous, de nos cultures et parfois de nos défauts. On abordera le courage de certains sportifs, la transmission d'une passion, ainsi que des exploits qui ont pu nous marquer en tant que fans absolus. Pour cette nouvelle émission, j'ai voulu aborder un thème qui émerge de plus en plus en grand titre de certains journaux, et qui a ouvert la voie à la question de la santé physique et mentale de certains sportifs, la pression extrême des athlètes de haut niveau dans les sports artistiques. En effet, ce sujet touche le monde entier, car c'est dans les pays orientaux comme la Chine et la Russie que cette pression mentale et physique a émergé, avant d'être aussi dénoncée dans plusieurs pays du monde, et même la France. Les sports artistiques, comme la gymnastique, le patinage artistique ou la natation synchronisée, fascinent par leur esthétique et leur précision. Ils sont souvent associés à la grâce, à la maîtrise du corps et à la perfection du geste. Mais derrière ces performances spectaculaires se cachent des réalités beaucoup plus dures, marquées par une pression intense, souvent présente dès l'enfance. Cette pression peut avoir des conséquences importantes sur la santé physique et mentale des athlètes. Pour commencer, dans les sports artistiques, la détection des talents commence très tôt. Les enfants sont parfois repérés dès l'âge de 5 ou 6 ans, en fonction de critères physiques, comme la souplesse, la coordination ou la morphologie. À partir de ce moment, le sport devient progressivement un projet de performance et non plus un simple loisir. Les jeunes athlètes suivent des entraînements intensifs dès leur plus jeune âge. Avant 12 ans, certaines s'entraînent déjà entre 15 et 20 heures par semaine, ce qui correspond à un rythme proche de celui d'un adulte. Cette charge de travail s'accompagne souvent d'une scolarité aménagée et d'une réduction de la vie sociale. Des études montrent qu'environ 25% des jeunes sportifs de haut niveau présentent des troubles anxieux, liés notamment à la peur de l'échec, à la fatigue et à la pression des résultats. Dans les sports jugés, la pression est encore plus forte, car l'athlète est constamment évalué sur des critères esthétiques et techniques. Le cas de la gymnaste Kellyanne Moore est particulièrement révélateur des paradoxes des sports artistiques de haut niveau. Née en 2006, elle est repérée très jeune pour ses qualités exceptionnelles au bar asymétrique. Puissance, précision, fluidité du geste et grande capacité de concentration. Très rapidement, elle intègre un parcours d'excellence, avec des entraînements quotidiens, une scolarité aménagée et des objectifs de performance clairement affichés. En 2024, à seulement 17 ans, Kellyanne Moore entre dans l'histoire du sport algérien en remportant la médaille d'or aux Jeux Olympiques, la première pour une Africaine. Cette victoire est saluée par les médias comme le symbole d'une nouvelle génération de gymnastes, talentueuses et ambitieuses. À ce moment-là, l'image renvoyée est celle d'une réussite totale, une athlète jeune, souriante, performante qui incarne l'excellence sportive. Pourtant, derrière cette image idéalisée, le parcours de Kellyanne Moore est marqué par de fortes tensions psychologiques. Peu de temps après les Jeux, elle annonce son départ de son club formateur et dénonce publiquement un climat d'entraînement qu'elle juge toxique. Elle parle d'une pression mentale constante, faite de remarques humiliantes, de critiques permanentes et d'une culpabilisation lorsqu'elle exprimait de la fatigue ou même du doute. Ce qu'elle remet en question, c'est pas l'exigence sportive, mais la manière dont cette exigence était imposée. Selon son témoignage, la performance primait systématiquement sur le bien-être. Pendant les Jeux Olympiques, elle explique avoir continué à s'entraîner et à concourir malgré un stress intense, sans oser en parler de son mal-être par peur de décevoir son entourage sportif. Son témoignage a un impact important car il casse un mythe très présent dans le sport de haut niveau, celui selon lequel la victoire efface toutes les souffrances. Le parcours de Kellyanne Moore montre au contraire que la réussite sportive peut masquer une grande détresse psychologique, et que même les champions olympiques ne sont pas épargnés par la pression extrême. Ce cas permet également d'ouvrir un débat plus large sur la responsabilité des structures sportives, et sur la nécessité de mieux encadrer les méthodes d'entraînement, notamment chez les mineurs. Ce système de pression des athlètes ne naît pas en France. En effet, à l'échelle internationale, certains pays dominent historiquement les sports artistiques, notamment la Russie, la Chine, mais aussi les États-Unis ou le Japon. Ces nations ont mis en place des systèmes de formation extrêmement structurés, qui visent la performance maximale dès le plus jeune âge. En Russie, la gymnastique artistique repose sur un modèle très hiérarchisé. Les enfants sont intégrés très tôt dans les écoles spécialisées où la discipline est stricte et l'autorité des entraîneurs rarement remise en question. Les méthodes d'entraînement sont réputées pour leur dureté avec une exigence de perfection permanente. Ce système a produit de nombreuses championnes olympiques, mais il a aussi été critiqué pour la pression psychologique intense exercée sur les athlètes, parfois au détriment de leur santé. Plusieurs anciennes gymnastes russes ont témoigné après leur carrière de blessures chroniques, de troubles alimentaires et de traumatismes psychologiques liés à des années de pression et de contrôle excessifs. En Chine, le modèle est encore différent, mais tout aussi exigeant. Les jeunes sportifs sont souvent sélectionnés très tôt et intégrés dans des internats sportifs d'État. Leur quotidien est entièrement organisé autour de l'entraînement. Levée matinale, longue session d'exercice et très peu de contact avec la famille, ainsi qu'une scolarité secondaire par rapport au sport. Dès l'adolescence, certains athlètes s'entraînent plus de 25 heures par semaine. Si ce modèle permet d'obtenir d'excellents résultats internationaux, il limite fortement la liberté individuelle et peut entraîner une fatigue mentale profonde. Des études montrent que dépasser 26 heures d'entraînement hebdomadaire augmente fortement le risque de blessures, notamment au niveau des articulations et de la colonne vertébrale, ce qui souligne le coût physique de ces méthodes. Ces exemples internationaux posent une question centrale. Jusqu'où peut-on aller au nom de la performance sportive? Et à partir de quel moment le prix à payer devient-il trop élevé pour les athlètes? Pour continuer, les entraîneurs occupent une place centrale dans les sports artistiques. Ils sont à la fois des figures d'autorité, des techniciens, des mentors et parfois des repères affectifs pour des athlètes très jeunes. Leur influence est alors considérable. Dans le meilleur des cas, l'entraîneur accompagne l'athlète dans sa progression, l'aide à gérer le stress des compétitions et veille à son équilibre mental et physique. Mais dans certains contextes, cette relation peut devenir problématique et même toxique. Dans les sports artistiques, la relation entraîneur-athlète est souvent déséquilibrée. L'entraîneur décide des sélections, des passages en compétition et parfois même de la poursuite ou non de la carrière. Cette dépendance rend difficile toute contestation des méthodes d'entraînement, surtout lorsque l'athlète est mineur ou qu'il connaît l'entraîneur depuis très longtemps. Le cas de Kélian Emour illustre bien ce mécanisme. Tant que les résultats étaient présents, les méthodes n'étaient pas remises en question par l'institution. Ce n'est qu'après la victoire olympique et la prise de parole de l'athlète que le débat s'est réellement ouvert. Cela pose la question de la formation des entraîneurs, qui devraient intégrer davantage de compétences humaines, psychologiques et éthiques, et pas uniquement des compétences techniques. Contrairement aux sports chronométrés ou mesurés, les sports artistiques reposent sur une notation dite subjective. Les juges évaluent bien sûr la difficulté technique et l'exécution des éléments, mais aussi des critères plus flous, comme l'esthétique, l'harmonie des mouvements, l'expression corporelle ou encore la capacité de l'athlète à transmettre une émotion à travers sa prestation. Cette subjectivité crée une pression particulière, car l'athlète ne maîtrise jamais totalement le résultat final de sa performance. Contrairement à une course où le chronomètre tranche de manière objective, ici, une même prestation peut recevoir des notes différentes selon les juges. Le contexte de la compétition ou même l'ordre de passage, cela peut générer un fort sentiment d'injustice et une frustration importante chez les sportives. Dans certains témoignages, des athlètes expliquent avoir l'impression de devoir plaire davantage que performer. Ils ne cherchent plus seulement à réussir techniquement, mais aussi à comprendre et à correspondre à une image attendue. Une certaine posture, un sourire, une attitude. La peur de l'erreur se double alors de la peur du regard. Celui du juge, du public, mais aussi des entraîneurs et des médias. À cette pression liée à la notation, s'ajoute une pression médiatique de plus en plus forte. Lors des grandes compétitions internationales comme les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde, les athlètes sont constamment observés, analysés et comparés. Les performances sont commentées en direct, parfois résumées à une note ou à un classement, sans prendre compte le contexte émotionnel, la fatigue ou les blessures. Les réseaux sociaux amplifient encore ce phénomène. Une chute, un passage raté ou une note jugée décevante peut devenir virale en quelques minutes et faire le tour du monde. Les athlètes, souvent très jeunes, sont alors exposés à des critiques publiques, parfois violentes dans des commentaires, qui peuvent avoir un impact durable sur leur confiance et leur santé mentale. L'exemple de Simone Biles est particulièrement révélateur. Lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, cette grande gymnaste décide de se retirer de plusieurs épreuves en raison d'un épuisement mental, notamment lié aux twisties, un trouble de la perception du corps dans l'espace qui peut être extrêmement dangereuse en gymnastique. Sa décision, largement médiatisée, a suscité de nombreux débats. Certains ont salué son courage et sa lucidité, tandis que d'autres ont remis en question son engagement ou son professionnalisme, en la traitant d'hypocrite. Pourtant, son choix a surtout permis de mettre en lumière une réalité souvent passée sous silence. Même les athlètes les plus titrés, les plus admirés et les plus performants peuvent atteindre leurs limites mentales. Son témoignage a marqué un tournant dans la manière dont la santé mentale est abordée dans le sport de haut niveau. La pression excessive dans les sports artistiques peut avoir des conséquences profondes et durables. Sur le plan physique, elle se traduit souvent par des blessures à répétition, des douleurs chroniques et des fractures de fatigue, ou encore une usure précoce des articulations. Beaucoup d'athlètes terminent leur carrière avec des séquelles importantes, parfois dès l'adolescence, et ce jusqu'à la fin de leur vie, même dans leur vie personnelle. Sur le plan psychologique, les conséquences sont aussi préoccupantes. La pression constante peut entraîner des troubles anxieux, des épisodes dépressifs, une perte de confiance en soi et un sentiment de ne jamais être à la hauteur. Dans certains cas, cela conduit à un burn-out sportif, comme Simone Biles en 2021, ou à un abandon brutal de la discipline, parfois vécu comme un échec personnel. On estime qu'environ 17% des jeunes sportifs de haut niveau présentent des signes de dépression. Pourtant, moins d'un tiers d'entre eux consultent un professionnel de santé mentale. Beaucoup hésitent à demander de l'aide par peur d'être perçus comme faibles, de perdre leur place en équipe ou de compromettre leur avenir sportif. Cette difficulté à parler du mal-être est renforcée par une culture de la performance où la souffrance est certaines fois normalisée, voire valorisée. Des discours comme « tenir bon », « ne rien lâcher » ou « dépasser la douleur » sont omniprésentes et peuvent empêcher une prise en charge précoce. Face à ce constat, plusieurs pistes de solutions émergent pour faire évoluer les pratiques dans les sports artistiques. La mise en place d'un suivi psychologique régulier est obligatoire dans les structures de haut niveau. Une meilleure formation des entraîneurs à la gestion humaine, émotionnelle et relationnelle. Le renforcement des règles éthiques dans les clubs et les fédérations, surtout pour la protection des mineurs. L'encouragement de la prise de parole des athlètes et la valorisation de leurs témoignages. Une sensibilisation des médias et du public à la réalité du sport de haut niveau, au-delà des résultats et des médailles. Ces solutions ne visent pas à diminuer l'exigence sportive, mais à la rendre plus compatible avec la santé et l'équilibre des athlètes, sans être pour autant toxique. Ainsi, les sports artistiques fascinent par leur beauté, leur précision et l'émotion qu'ils procurent, mais derrière la grâce apparente se cachent souvent des parcours marqués par une pression intense. Présente dès l'enfance et renforcée par les systèmes de notation, les exigences institutionnelles et la médiatisation. Les exemples français et internationaux montrent que la performance peut parfois se construire au détriment de la santé physique et mentale des sportifs. Prendre conscience de ces réalités permet de porter un regard plus juste sur ces disciplines et de questionner notre rapport collectif à la réussite et à l'excellence. Imaginez un sport de haut niveau plus respectueux de l'équilibre des athlètes, sans renoncer à l'exigence ni à la performance, est aujourd'hui un enjeu majeur pour l'avenir des sports artistiques et pour les générations à venir. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle aventure sportive entre émotions, héros et moments de légende, là où le sport français et mondial nous réunit tous. C'était Valentine dans Au-delà du sport.